Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. Bonjour Didier.
Bonjour. Bon,
c'était toujours à la technique, ça va bien ?
Toujours, tu vois, je suis encore là.
Oui. Bon, le mois de novembre, c'est le mois pendant lequel on fête les morts dans beaucoup d'endroits du monde. Mais qu'en est-il en Asie et en Asialogie aussi ?
Eh oui.
Alors, en quoi les rapports à la mort sont différents des nôtres là-bas ? Vaste sujet. Aussi, ce 11e épisode d'Asialogie sera consacré à une découverte du culte des ancêtres. Et Linda, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir, notre chroniqueuse littéraire, nous présentera ses coups de cœur et puis elle nous parlera du prix Nobel de littérature de cette année. Et en dernière partie d'émission, Didier, tu nous parleras d'un nouveau jeu vidéo passionnant, Black Wukong.
Tout à fait. Bon alors, du coup... Allons-y. Quelles sont les origines et les fondements du culte des ancêtres en Extrême-Orient ? Puisque là, on est parti vraiment sur le thème de novembre. Hein.
Thème de novembre. Alors, le culte des ancêtres trouve ses racines dans le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme et dans les croyances animistes. Ces traditions ont en commun une vision du monde où le respect pour la famille et la lignée est essentiel à l'ordre social et spirituel, on pourrait même dire à l'ordre du monde.
D'accord.
Rappelez-vous, dans la pensée confucéenne, la piété filiale, Xiao, est l'une des valeurs les plus importantes. Ça se traduit pour les enfants de prendre soin de leurs parents, à la fois de leur vivant et après leur mort. Alors selon Confucius, la stabilité de la société repose sur des relations harmonieuses au sein de la famille et sur la vénération des ancêtres, je dis bien vénération, qui est l'expression de cette harmonie. Et dans le taoïsme, les ancêtres, retournés à la terre, et ça c'est très important,
ouais,
sont le prolongement de l'homme vers la nature.
D'accord.
Forcément, puisqu'ils sont retournés, oui, on retourne à la terre.
Okay.
Et les ancêtres, devenus esprits, continuent d'exercer une influence sur le monde des vivants et doivent être honorés pour maintenir l'équilibre. Ça, c'est dans le taoïsme.
D'accord, jusque-là, je te suis.
Voilà. Mais avant l'apparition du taoïsme, du bouddhisme et du confucianisme, au VIe siècle, rappelons-nous, ils sont arrivés en même temps, quasiment.
Mmh, ouais, c'est vrai.
Six siècles avant Jésus-Christ, on pratiquait l'animisme et le chamanisme au travers du culte des esprits aussi. Et cette croyance dans les esprits après la mort a initié le culte des ancêtres.
D'accord. Alors du coup, quels sont les rituels et les pratiques du culte des ancêtres ?
Alors les rituels et les pratiques varient d'un pays à l'autre, mais ils ont des caractéristiques communes. Par exemple, l'installation d'un hôtel des ancêtres dans la maison est l'un des points communs en Chine, au Japon, en Corée, comme au Vietnam.
D'accord, ça c'est partout.
Et même dans les maisons, dans la diaspora par exemple. Mmh. C'est pareil. Alors on trouve dans cet hôtel ou sur cet hôtel des tablettes avec le nom des ancêtres et où leurs portraits, entourés d'offrandes sous forme de nourriture, d'alcool, d'encens et d'autres objets symboliques pour les nourrir et les apaiser dans l'au-delà. Alors les offrandes changent en fonction des saisons et des fêtes. Et on peut dire qu'en Asie, la mort n'est pas une fin définitive.
D'accord.
Et les traditions funéraires sont censées aider le passage harmonieux de l'âme du défunt vers l'au-delà et à maintenir des bonnes relations entre les vivants et les morts.
Alors, faisons attention à tout ça. Et alors dis-moi Corinne, quels sont les concepts autour de la mort, s'il te plaît ?
Alors, en résumé, je dirais qu'on a la chance en Extrême-Orient, et moi je trouve que ça c'est vraiment une belle idée,
ouais,
de ne jamais mourir tout à fait. L'âme du défunt continue d'exister et influence les vivants. Et dans le bouddhisme, eh bien, on croit en la réincarnation où l'âme renaît dans un nouveau corps en fonction de son karma accumulé. Et le but des rites est d'aider le défunt à obtenir une bonne réincarnation. Voilà.
Okay.
Et dans tous les cas, le but, c'est que l'âme du défunt soit en paix pour que les vivants vivent tranquilles.
Ça, c'est bien. Ça me va bien. Ça, comme
ça te va bien.
Puis ouais,
on a, oui, c'est
si
vrai.
Si on peut être un petit peu tranquille, un peu de tranquillité, oui, ça fait pas de mal. Et donc, du coup, ces étapes des rites funéraires, c'est comment ? Ça se déroule comment ?
Alors, il y a des points communs avec nos propres rites, hein, et il existe des entreprises de pompes funèbres comme,
ouais,
chez nous.
Bien sûr.
Chaque pays a bien sûr ses propres spécificités, mais ils ont en commun la préparation et la veillée du corps, les funérailles proprement dites, et les rites post-funéraire et sur le long terme, le culte des ancêtres en lui-même. Hein, c'est un peu plus à distance, on va dire. D'accord. Donc la préparation du corps est essentielle hein, et l'embaumement est rare, car on pense qu'il est préférable de laisser le corps se décomposer naturellement en lien avec les croyances taoïstes et bouddhistes sur le cycle de la nature.
Bah, ça fait le lien avec la nature, c'est clair, c'est sûr.
Et la veillée funèbre est importante et peut durer plusieurs jours avec des moments de prière, de méditation pour aider l'âme du défunt à se détacher du monde des vivants. Mmh. Alors on partage les repas, ça c'est beau, ça se fait beaucoup en Corée. On fait brûler de l'encens, les fleurs, les offrandes, et puis les membres de la famille se relaient en évitant de pleurer bruyamment près du corps, car cela pourrait troubler l'âme du défunt.
Ah, voilà. C'est étonnant ça.
Bon, pour méditer là-dessus, écoute...
On va essayer de retrouver de la paix.
Oui, quelque chose d'apaisant, Didier, c'est s'il te plaît.
Oh, je pense que ça ne va pas être difficile.
Vous êtes toujours sur Asialogie avec Corinne qui nous parle en ce mois de novembre de rituels. Et du coup, en fait, quelles sont les pratiques dominantes pour le traitement du corps du défunt? Parce qu'on était resté là-dessus tout de suite.
On était resté à la veillée funèbre.
Voilà.
Eh bien, l'inhumation était historiquement la méthode la plus courante en Chine, en Corée et au Vietnam, du fait de la croyance, hein, comme je le disais tout à l'heure, que le corps devait retourner à la terre.
Voilà.
Mais la crémation est devenue beaucoup plus courante à cause de la démographie. On sait que là-bas, la démographie est... Enfin, elle est un petit peu en chute hein, en ce moment. Mais enfin, il y a du monde.
Oui, il y a quand même du monde qui décède encore, malheureusement.
Et ben, je dirais comme chez nous en France, hein, l'inhumation coûte très cher.
Oui.
Et la crémation, beaucoup moins. Donc,
cet effet-là ou ça ne prend pas.
Ils font le choix de la crémation, comme chez nous d'ailleurs.
Mmh.
Alors par contre, au Japon, la crémation est pratiquée couramment depuis très longtemps.
D'accord.
Et après la crémation, là-bas, les proches recueillent les os du défunt à l'aide de baguettes.
C'est un rituel très
particulier. Voilà, c'est un rituel symbolique qui montre l'importance de la continuité familiale, parce que c'est forcément un membre de la famille très proche qui le fait. Et ça crée du lien entre les générations.
Ouais.
Alors les cendres sont ensuite mises dans une urne, conservées à la maison ou dans un columbarium. Et en Chine, pendant la crémation particulièrement, on brûle des faux billets de banque pour que l'âme ait de quoi se nourrir et vivre confortablement dans l'au-delà, parce qu'on ne sait jamais.
Oui, on ne sait jamais.
Il faut être
prudent, c'est sûr. Mais alors du coup, après ça, qu'est-ce qui se passe après l'enterrement, la crémation, la suite, c'est quoi?
Alors rien ne s'achève, hein, parce qu'on va continuer à honorer le défunt de génération en génération. J'imagine c'est pour ça qu'on est presque immortel là-bas.
Ouais, ouais, ouais. Hein.
Et la période de deuil peut durer longtemps selon la relation qu'on a avec le défunt. Il n'y a pas vraiment de règles, mais d'accord, ça peut durer plusieurs années. C'est pas très, enfin, c'est comme ça.
Ouais, ça dépend. Alors, comment on le vit, quoi.
Voilà. Donc, mais le défunt, on va toujours l'honorer au cours des cérémonies commémoratives. Mm-hmm. Et il existe des jours spécifiques dans chaque pays, comme mm-hmm. la Toussaint, je dirais en Europe.
Ouais, c'est ça.
En France particulièrement.
D'accord.
Alors, le culte des ancêtres en Chine est probablement le plus ancien et le plus systématique. Et le jour consacré, c'est pas du tout en novembre, c'est au mois d'avril, c'est le 4 ou le 5 avril,
okay.
Et c'est la fête de Qingming, et ça s'appelle, Qingming, ça veut dire la clarté pure.
Ah.
Alors ce jour-là, les familles vont sur les tombes pour les nettoyer, brûler l'encens, faire des offrandes, comme d'habitude.
Oui, c'est ça, oui.
Et il y a aussi en août la fête des fantômes, et en août aussi au Japon, la fête bouddhiste du Bon. Et les deux ressemblent un petit peu à ce qui se pratique au Mexique.
Ah.
C'est un moment où les morts reviennent sur Terre et ils doivent être bien accueillis par
d'accord.
les vivants.
Alors on va manger sur
avec
leur
des offrandes. Bah, on fait un hôtel à la maison et
d'accord.
on leur met avec leurs photos. Et
okay.
bah, il y a le fameux film Coco qui
oui.
raconte bien
oui,
cette
oui,
histoire-là du culte
mignon,
des
oui,
ancêtres au Mexique et qui ressemble d'ailleurs au culte des ancêtres en Asie.
D'accord.
Voilà, puis en Asie, on fait aussi flotter des lanternes pour accompagner les âmes dans l'au-delà. Ça, c'est joli.
Ah
même.
Oui, ça c'est plutôt joli.
Alors pour ce qui concerne la Corée, nous en avions parlé en septembre à l'occasion de la fête de la Lune,
oui.
la fête de Chuseok,
mm-hmm.
qui avait lieu le 15e jour du 8e mois lunaire. Alors Chuseok, c'est la fête des moissons, hein, je le rappelle, et aussi l'occasion de rendre hommage aux ancêtres à travers un repas cérémonial en leur honneur et en allant se recueillir sur leur tombe.
D'accord. Voilà. Est-ce que la pratique des rites évolue ou du fait de la modernité ou pas, enfin,
oui,
pas changé
non. Oui et non. Je dirais qu'il y a des adaptations et de la simplification. Alors certains rituels sont raccourcis ou adaptés à des cérémonies laïques, mais demeurent quand même essentiels. C'est la communication avec les ancêtres qui demeure très importante. Hein. Sans, on en avait parlé, Didier,
oui,
tu te
oui,
souviens, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle
et de
communiquer avec tous les éléments, toutes les données. L'ancêtre.
C'est assez troublant tout ça.
C'est très troublant. Et y a la création d'hôtels numériques maintenant sur Internet.
D'accord.
Alors il faut se souvenir que les ancêtres sont perçus comme des protecteurs de la famille
oui.
et en les honorant régulièrement, on obtiendra leur bénédiction.
Alors.
Voilà. Et il faut savoir que le culte des ancêtres entretient les liens sociaux et familiaux. Et je dirais c'est une pratique de cohésion sociale et c'est important.
D'accord.
Voilà. Bon, Didier,
oui.
on va changer. On n'aura pas de pause musicale là
non.
maintenant.
Non, non.
C'est Linda qu'on accueille.
C'est une pause
bonjour Linda. Linda, on est très heureuse de t'accueillir avec nous. Donc, tu nous parles de qui ?
Alors, ce soir, je vais vous parler de Han Kang, qui est une auteure sud-coréenne qui vient d'obtenir le prix Nobel de littérature.
Oui,
c'est chouette.
Ça envoie.
C'est une grande première.
Oui,
pour,
c'est une première.
L'Asie,
oui, oui, j'avais vu ça.
Puisque, effectivement, à 53 ans, elle est la première femme asiatique à obtenir ce prix.
Qui est quand même le prix le plus prestigieux, on peut
dire. Beau symbole, quand même.
Un des prix les plus prestigieux. Un joli pied de nez aussi, parce qu'on imagine toujours que c'est une littérature un peu classique qui va être récompensée. Même si on oublie souvent que le prix Nobel de littérature doit récompenser une œuvre engagée et novatrice.
D'accord.
Ce que réussit Han Kang à la perfection, avec notamment un de ses textes dont je vais parler. Elle en a écrit une dizaine, quelques-uns sont traduits, ce qui lui vaut une renommée aussi à l'international.
Mmh.
Elle a quand même aussi obtenu
oui.
le Booker Prize,
mmh.
ce n'est pas rien. Et là, en fait, je vais vous parler de La Végétarienne. La Végétarienne, c'est un texte à la fois troublant, fascinant, dérangeant. Ça raconte l'histoire d'une femme, elle s'appelle Hongzi, et cette jeune femme, une nuit, elle fait un cauchemar terrible. Elle rêve de viande dégoulinante, sanguinolente. C'est terrible. Et le matin, quand elle se réveille, elle décide de complètement vider la viande de son réfrigérateur. Et elle dit à sa famille et à son entourage, « Je vais devenir végétarienne ». Là, en fait, on se dit que d'un geste qui peut sembler anodin pour nous, va être une espèce de révolution intérieure, une rébellion silencieuse, parce que, outre de devenir végétarienne, elle veut devenir végétale.
Ah
quasi
oui.
rentrer en communication avec le monde paisible des arbres, des plantes. C'est ce qu'elle va faire, il va y avoir cette transformation corporelle. Et le texte va se diviser en trois parties, avec le point de vue du mari, complètement absent de cette transformation et complètement dépassé, et on imagine bien pourquoi.
C'est pas si simple en même temps.
Il va y avoir le beau-frère, personnage étrange, artiste, fasciné de manière un peu parfois subversive, malsaine, par rapport à ce corps changeant de cette femme et à ce qu'elle veut devenir. Et puis il y a la sœur. Il y a la sœur qui va l'accompagner, mais là j'en dis pas plus, qui va l'accompagner de manière étonnante jusqu'à cette transformation. Ce que Han Kang raconte dans ce texte, et de manière à la fois troublante, dérangeante, c'est comment être une femme en Corée, c'est compliqué. Elle raconte cette violence sourde, la violence de la famille, du couple, le beau-père qui va quasiment la forcer à manger de la viande. Elle va raconter cette aliénation du corps, comment en fait les Coréens voient le corps de la femme. Ce n'est pas de la même manière qu'en Occident, mais c'est aussi terrible. Et puis elle va mettre en scène cette femme dans une espèce de forme d'aliénation, jusqu'à l'effacement du corps, jusqu'à l'effacement de soi. C'est quelque chose qui parfois, au niveau de certaines scènes, va complètement nous confronter à autre chose. En termes de narration, c'est hyper intéressant, c'est hyper novateur. Et puis elle va raconter aussi comment cette femme, de cette manière, va raconter une forme d'émancipation, de quête de soi. Comment en fait elle va se dégager des conventions sociale, sociétale, de sa famille, pour devenir autre chose.
Oui, donc il y a beaucoup de choses dans ce livre, Linda.
Ouais, selon ça a l'air
ce que
riche,
tu... oui. Ça a l'air d'être un roman très riche et un peu spécial.
Alors, j'utilise cette formule avec beaucoup de pression, on va dire. C'est quasi kafkaïen, en fait, cette transformation qui va l'amener à devenir complètement autre chose, à s'oublier. En fait, c'est une rupture avec ce système, c'est une rupture avec les conventions, c'est une espèce de libération ultime, parce que quand on arrive à oublier son corps, à oublier son esprit, c'est aussi quelque chose de douloureux. Il y a cette impression de douleur permanente dans l'écriture. C'est quelque chose de jusque-boutiste, c'est-à-dire que c'est une transformation radicale qui va questionner les attentes sociales, sociétales. Et c'est pour ça que ce soit Han Kang qui obtienne le prix Nobel de littérature. C'est aussi un message envoyé à toutes les femmes et à toute l'Asie. Et puis aussi pour nous, l'occasion d'imaginer ce que c'est que ce pays et cette culture.
Ah, ça donne vraiment envie, Linda.
Ça
merci.
Met en appétit, moi,
donc, c'est La végétarienne de Han Kang.
Han Kang et
Prix Nobel
de littérature
2024 pour son œuvre, et pas seulement pour un livre. Hein.
Exactement.
C'est pour son œuvre, c'est important de le préciser. Bon, un autre coup de cœur, Linda, on reste sur notre faim, on a besoin
de... Enfin, notre faim, oui. Enfin, moi, ça m'a mis en appétit, même si c'était végétarien, j'ai bien aimé.
Non.
J'ai cru comprendre.
Vaut mieux pas. Alors, un coup de cœur beaucoup plus apaisant, plus calme. Ça s'appelle Le dernier thé de Maître Soho. C'est de Cyril Gély. Ça apparaît chez Arléa. Arléa, c'est une petite maison d'édition pour qui je fais un clin d'œil tout particulier, parce qu'ils ont toujours des textes atypiques, singuliers, magiques, merveilleux, des petits moments de lecture sublimes qui nous plongent souvent dans des univers très différents. Dans ce texte, Cyril Gély nous transporte dans le Japon de la fin des samouraïs, dans un récit à la fois poétique et complètement ensorcelant, où on va découvrir deux personnages que, au départ, tout oppose et qui, normalement, n'auraient jamais dû se rencontrer. D'abord, il faut situer un peu, on est en 1875 au Japon, c'est la fin de l'ère Edo, la fin de l'époque des samouraïs, et pourtant, on va rencontrer Ibuki. Ibuki, c'est une jeune femme, elle est héritière d'une fortune familiale et notamment de la brasserie dont elle devrait s'occuper. Elle a été élevée par son père, qui l'aime énormément, et pourtant, pour poursuivre un rêve complètement fou, elle va tout quitter, sa fortune, sa famille, son amoureux, et elle n'a qu'une idée en tête, devenir samouraï.
Ce qui était exceptionnel.
Pour l'époque.
Pour l'époque, et même pour le pays.
Oui, et pour les femmes.
pour une femme. Pour une femme dans ce pays.
En plus, voilà.
Oui. D'ailleurs, elle va utiliser un subterfuge puisque elle va se déguiser en homme quand elle va aller à la rencontre d'un grand maître samouraï, un grand guerrier à son époque. Il s'appelle le maître Soho. Et là, elle va le convaincre, alors que lui a décidé de laisser le sabre dans son fourreau depuis longtemps, et on le comprendra au fil du roman, on saura pourquoi, eh bien elle, elle décide de devenir samouraï et il va l'accompagner. Elle doit accepter en échange, parce que lui, il s'est ouvert à un autre art japonais, le thé. D'accord. Et autant elle va devenir samouraï, lui, il va l'amener à autre chose. Ça va être une confrontation entre les deux, entre la sagesse et la jeunesse, le savoir et l'ignorance. Et dans cette joute faite de rituels, de sabres qui volent dans le vent, de thé, de théière, imaginez en fait quasiment, c'est un texte très sensuel, où en fait les impressions, les odeurs, les parfums vous chatouillent les narines régulièrement. Et Cyril Gelly, ce qu'il va faire, c'est raconter l'histoire de personnages étonnants, raconter un Japon, une époque qui se termine, une autre qui naît. Et puis surtout, il va raconter que quand on s'oppose, quand on est fait de différence, eh bien en fait, à force de volonté, de rencontre, d'écoute, de questionnement, eh bien on peut devenir autre chose. Et puis bien parfois, on peut réaliser ses rêves. C'est beau, c'est simple, c'est merveilleux, c'est sublime. Il y a la nature, il y a le chant des oiseaux, les ruisseaux, et puis il y a ces deux personnages magnifiques.
Ah oh, là, moi j'ai juste une envie là, c'est que le week-end arrive, que je me pose dans mon fauteuil au coin du feu et avoir le livre dans les mains. Là,
donc,
là,
y a pas photo, Linda, c'est le dernier thé de Maître Soho.
Oui.
Et c'est Cyril Gelly.
Oui.
Et rappelle-nous les éditions.
Alors, pour la première, pour la végétarienne, ça paraît au livre de poche et en réédition. Ouais. Et pour le second, c'est chez Arléa.
Arléa, donc une très bonne maison.
Exactement. D'accord. Un éditeur à suivre, notamment parce qu'il publie de nombreux récits de voyage aussi somptueux que le texte de Cyril Gelly. Ah.
Alors, recommander chaudement. Linda, merci infiniment. Bon, on trouve bien sûr ces livres à la librairie Doucet, ailleurs aussi, bien évidemment. Ouais, en tout cas, merci d'être venue. Puis on attend la prochaine chronique avec impatience.
Ah oui,
Linda.
On a merci. Tellement en appétit ce soir.
Ah oui. Bon, on va faire une pause musicale avant de passer à la c'est suite ça. Qui va un petit peu déménager.
Ah, c'est différent. Oui.
C'est différent.
Oui, oui, je pense que.
Donc, on écoute quoi, Didier?
Ah, on écoute quelque chose qui va nous faire découvrir déjà un petit peu du jeu dont on va parler. Après, c'est tiré donc de la BO de Black Myth Wukong. Donc, je vous laisse
super.
Profiter. Donc c'était la bande originale de, non pas d'un film, non. Mais presque un film quand même, tellement c'est beau, ouais, c'est ça
du jeu vidéo Black Myth Wukong.
C'est ça.
Tu vas tout nous dire là-dessus, hein. Ça vient de sortir. Bon Didier, parle-nous de Black Myth Wukong, j'aimerais bien en savoir plus.
Tu veux en savoir plus?
Oui.
Il suffit de rester dans les minutes à venir et tu devrais en savoir beaucoup plus.
S'il te plaît.
Alors du coup, on n'a pas fini en fait d'entendre parler de ce jeu extraordinaire conçu par une petite équipe de Game Science, sorti en août 2024. Bah alors, selon les spécialistes, que je ne suis pas, il y a des performances incroyables dans ce jeu. Alors, c'est un jeu solo, un jeu de rôle et d'action pour PC et PlayStation. On n'a pas de date de sortie, en tout cas, je ne l'ai pas pour la Xbox. C'est l'une des premières productions chinoises. Et elle ne déçoit pas, a priori. Black Myth Wukong n'a pas fini de surprendre. Il a franchi le seuil des 20 millions de ventes en score colossal. Bon, alors, c'est chinois, c'est aidé par un public large chinois, mais tout de même, une extension du jeu est d'ailleurs en préparation, puis bah, elle sortirait fin janvier 2025 pour correspondre au nouvel an chinois, bien sûr.
Alors, de quoi s'inspire Black Myth Wukong, Didier ?
Alors, ça, le scénario est inspiré du célèbre roman chinois de la pérégrination vers l'Ouest, bien connu dans l'émission. C'est une aventure
on le connaît
au cœur
bien.
Voilà, de la mythologie chinoise, avec des combats où le joueur a un large choix pour adapter, personnaliser Sun Wukong, le roi singe, et l'aider dans son voyage. Alors, les Occidentaux connaissent un peu l'histoire grâce à Goku de Dragon Ball, d'Akira Toriyama, mais il faut rappeler que le roman de Wu Chen est né en Chine à la fin du XVIe siècle. Alors, en France, il a fallu attendre 1991 la publication de la Pérégrination vers l'Ouest dans la bibliothèque de la Pléiade pour découvrir la première traduction à partir du chinois. Puis, les fameuses éditions 2024, il y a eu l'édition du beau livre de 850 pages, richement illustré, avec plus de 250 estampes copiées des originaux de grands maîtres de l'estampe. Ce jeu propose donc aux joueurs du monde entier un voyage épique qui mêle le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme avec la mythologie chinoise.
Oui, on en avait parlé hein, de ces voilà, éditions 2024.
Voilà, c'est bientôt Noël, je le rappelle à mes enfants.
Mais alors, est-ce qu'il... Et oui, c'est une belle idée de cadeau. Voilà. Est-ce qu'il faut avoir lu le livre pour y jouer, Didier ?
Alors, c'est pas obligatoire d'avoir lu le livre pour apprécier le jeu, certes. Mais bon, le joueur ne va pas forcément tout comprendre à l'histoire, bien sûr. Il n'a pas les bonnes références, des fois. Alors, y jouer pourra vraisemblablement donner envie d'en savoir plus sur l'œuvre originale. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, dans les premiers chapitres de Sun Wukong, il se révolte contre l'armée céleste de l'empereur de Jade. Et les créateurs du jeu nous en mettent plein les yeux. Voilà. En commençant. Directement avec un affrontement titanesque avec notre héros, et son nuage avec son bâton magique, le fameux bâton magique.
Et Didier, tu sais qu'Asiologie, c'est quasiment fini.
Ah, d'accord. Déjà ?
Qu'est-ce que t'en penses de...
J'en pense
on
que
en est où on est du court, timing hein.
Ah,
c'est
bah,
très court.
C'est court, oui. Bah, oui, c'est vrai que c'est court. Bah, écoute, faudra qu'on reparle un petit peu du jeu.
Oui,
quand même.
On en reparlera dans la prochaine
comme
émission.
Il y aura une prochaine sortie en janvier, il sera
l'occasion de revenir,
dessus et de reparler un petit
voilà.
peu.
Voilà, bon, Asiologie, c'est fini, les amis. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et nous réécouter le samedi matin à 9h30. Et bien sûr, aussi en podcast sur radioalpa.com. Rendez-vous jeudi prochain à 12h, toujours sur Radio Alpa.
Voilà.
107.3.
Bonne semaine. Au revoir Linda.
Salut,
merci, à bientôt.
Au revoir Linda.
Thank you.